La Russie aura des intérêts dans la zone. Et dans le papier que j'ai écrit, je montre que la France, qui a été pendant longtemps la porte-parole non seulement d'une troisième voie pour elle sur la scène internationale, mais l'idée d'une Europe européenne, a complètement abandonné ce rôle. Et que du coup, il n'y a plus personne qui parle, j'allais dire non seulement pour la France, mais pour l'Europe non plus. Plus personne ne défend les intérêts d'une Europe européenne, et plus personne ne défend l'idée qu'il y a autre chose que ce monde atlantique, dirigé par les États-Unis ayant leurs propres intérêts, mais ce n'est pas forcément les nôtres.
Je suis pour qu'il y ait une négociation qui s'ouvre pour lutter contre un certain nombre de freins aux échanges, de façon à favoriser la croissance.
On continue avec le diplôme du mois d'avril, avec Serge Halimi qui a consacré un long papier à la Tunisie, et la Tunisie qui s'est donné une nouvelle constitution qui a l'air assez modérée, Serge Halimi. Et puis on a vu le recul un peu d'Ennahda qui posait tellement de problèmes et qui était une sorte d'épouvantail. C'est quand même pas mal de voir que ce pays est dans un processus, alors que les autres révolutions arabes qui ont tellement enchanté les médias ont des développements assez décevants, disons.
Disons qu'avec le coup d'État militaire en Égypte, la guerre civile en Syrie, l'immobilisme politique en Algérie, dont on va nous parler Jean-Pierre Sérény tout à l'heure, et dans les monarchies du Golfe, évidemment, la situation dans les pays arabes est assez sensiblement en retrait sur les espérances que la plupart d'entre nous entretenions il y a 3 ans. Alors naturellement, on cherche quelque part quand même un motif d'espérer. Et justement, la Tunisie, qui avait connu l'année dernière une période très difficile avec l'assassinat de 2 dirigeants de gauche en moins de 6 mois, semble connaître depuis quelques mois une forme d'apaisement, ce qui suscite un réel soulagement là-bas. Vous l'avez dit, une nouvelle constitution a été adoptée en janvier dernier. Elle a été adoptée massivement par 200 voix sur 216. Ça veut dire que la plupart des forces politiques de la Tunisie l'ont acceptée. C'est un bon texte qui ne remet en cause aucun des acquis progressistes de la constitution de Bourguiba en 1959. En matière de liberté de conscience, de séparation entre religion et État, d'égalité homme-femme. Et en plus, cette constitution comprend un certain nombre d'avancées démocratiques, une présidence moins puissante, un meilleur équilibre des pouvoirs, des instances de contrôle indépendantes. C'est donc un premier acquis important qui a été réalisé de manière assez largement consensuelle, puisque presque tous les députés ont voté cette constitution. Et puis le deuxième acquis, c'est que les islamistes d'Ennahda, qui étaient devenus de plus en plus impopulaires, ont accepté de quitter le pouvoir. Rien ne les y contraignait, ils n'avaient pas perdu les élections. Ils ont accepté de quitter le pouvoir et ils soutiennent un gouvernement qu'on qualifie d'apolitique, mais qui est pour l'essentiel composé de technocrates plutôt libéraux. Et c'est ce gouvernement qui va préparer, organiser les prochaines élections qui auront lieu à la fin de l'année. Donc on peut dire qu'en apparence, tout va bien.
En apparence.
Voilà, en apparence. Parce que pendant que les partis se sont affrontés depuis près de 3 ans sur des questions relatives à la place de la religion dans la société, aucune des aspirations sociales qui étaient à l'origine du soulèvement tunisien, ça a été ça tout de même le soulèvement tunisien, ça a été des jeunes sans travail qui protestaient contre un mode de développement qui ne leur permettait pas de vivre, eh bien aucune de ces aspirations sociales n'a été résolue, au contraire, la situation économique est plutôt plus mauvaise qu'il y a 3 ans, l'État s'est affaibli, la contrebande se sont généralisées, au point qu'on dit que maintenant l'économie informelle représenterait plus du tiers de l'économie nationale, ce qui est énorme, c'est évidemment une perte de recettes fiscales calamiteuses, et tous les problèmes qui vont avec, les trafics d'armes, de devises, etc.
À quoi s'ajoute l'explosion de la Libye voisine?
Voilà, alimentée par l'explosion de la Libye voisine. Or, quel est le cap que se fixent les grandes forces politiques tunisiennes maintenant qu'elles ont apparemment réglé le problème constitutionnel? En quoi ces grandes forces, qui sont donc composées à la fois de la droite islamiste d'Ennahda, des héritiers de Bourguiba, mais aussi des héritiers de Ben Ali, qui sont dirigés par un homme assez âgé et charismatique, l'ancien Premier ministre